Une rediffusion.
Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, érosion, montée des eaux, inondation, la Lettonie est déjà confrontée au changement climatique et cela va empirer à l'avenir. Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, la mer Baltique devrait connaître une hausse de son niveau parmi les plus rapides en Europe. En début d'année, une grande tempête dans la Baltique a complètement détruit le petit chemin qui mène au phare de Riga. C'est un lieu de promenade très apprécié des habitants de la capitale lettonne. À cet endroit, l'érosion a rendu la côte particulièrement fragile. Marielle Vituro, notre correspondante dans les pays baltes, est partie faire un tour dans le quartier de Bolderaya, à Riga, un quartier cerné par les eaux.
En cette fin de journée hivernale, la plage est vide à Bolderaya. Il faut l'imaginer l'été bondé. Riga et ses banlieues comptent près d'un million d'habitants. Le doux clapotis de la mer Baltique s'entend alors à peine. Vera Ozina est assistante sociale à Bolderaya, un quartier d'immeubles gris qui s'est développé durant les années soviétiques et aujourd'hui en manque d'infrastructures. La jeune femme s'est impliquée pour sauver les arbres de son quartier, la mer et sa prochaine bataille.
Je me rappelle que petite, il fallait marcher pour arriver jusqu'à la mer. La différence est notable avec les plages qui ne sont pas surveillées. Elles sont devenues plus étroites, car l'eau monte, les vagues mangent le sable. Évidemment, nous voyons que nous perdons nos plages.
Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la mer Baltique va connaître une montée des eaux parmi les plus rapides en Europe, entre 3 et 5 mm par an. Pour en comprendre les raisons, direction le département des sciences de l'Université de Lettonie. Le géologue Yanis Lapinskis étudie l'érosion côtière.
La mer Baltique est une mer très fermée. Elle est connectée à la mer du Nord et à l'océan Atlantique par un goulet très étroit. La quantité d'eau qui arrive dans la mer Baltique est bien plus importante que celle qui s'en échappe. L'évaporation ne compense pas les volumes d'eau amenés par les rivières et les pluies. Et en raison du changement climatique, cette différence devrait encore s'accroître puisque les vents changent de direction et que les précipitations augmentent.
À Bolderaya, le chemin vers le phare a été détruit en bordure du territoire du port de Riga lors de la dernière tempête, n'étonne pas la mairie de Riga. Evia Pinke, la responsable environnement, jointe par téléphone.
Les géologues recommandent de toucher le moins possible aux côtes. Cela s'est avéré juste cette année, car ce sont les parties construites qui ont subi les plus grands dommages.
Le port a déclaré que le chemin vers le phare serait réparé. D'ici 2060, les scientifiques ont tout de même calculé que la Lettonie pourrait perdre près de 10 km² de territoire dû à l'érosion et à la montée des eaux. Une perspective qui inquiète Vera Ozina.
Cette plage est un confetti rien qu'à l'échelle de la Lettonie. Mais nous vivons ici, nous nous y promenons, nous y élevons nos enfants, nous nous baignons. Ce sera une tragédie car c'est notre manière de vivre qui va complètement changer.
La Lettonie compte 500 km de côte. En raison de son histoire récente, les côtes sont peu construites, car à l'époque communiste, elles formaient la frontière de l'Union soviétique avec le reste du monde. Inconstructibles, elles sont devenues en grande partie une zone naturelle protégée. Des dunes de protection existent, mais le quartier de Bolderaya n'est situé qu'à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le géologue Yanis Lapinskis.
L'érosion du rivage accentue le risque d'inondation. Le long des côtes, nous avons des dunes qui servent de barrière naturelle contre les inondations. Mais si l'érosion devient de plus en plus importante, ces dunes peuvent totalement disparaître. Les espaces situés derrière seront sujets à des inondations plus fréquentes.
Mais à l'instar d'autres villes de Lettonie, à Bolderaya, le danger vient aussi des rivières, la Daugava et la Bulupe, qui cernent le quartier. Evia Pinke, responsable environnement à la mairie de Riga.
Nous avons comme projet d'établir une digue et d'autres constructions pour protéger les habitants d'un risque important d'inondation le long d'une rivière dans le quartier.
Le ministère de l'Environnement a préparé en juillet dernier un grand plan d'action pour prévoir et s'adapter au changement climatique. 80 mesures en cours d'élaboration, dont certaines concernent précisément la montée des eaux. Et parmi elles, des mesures spécifiques pour les villes et les infrastructures installées au bord des rivières.
For mankind to grow, for our planet to prosper.
Pour alerter sur le changement climatique, l'Agence européenne de l'environnement a rassemblé une série de cartes très parlantes. Elles montrent les endroits qui subiront le plus d'inondations ou de sécheresses. Pour Wouter Vanneville, expert à l'Agence européenne de l'environnement, c'est dès aujourd'hui que les sociétés européennes doivent prendre des mesures pour s'adapter.
Même si on a une Europe ou un monde avec zéro émission aujourd'hui ou demain, et pas en 2050, mais déjà maintenant, on doit s'adapter.
Quelles régions vont devoir s'adapter le plus ?
En général, les côtes atlantiques ont un des systèmes où on doit s'adapter sérieusement, parce que c'est un système où on a déjà un niveau très grand entre le marée bas et le marée haut. Et en plus, si on a un modèle qui dit qu'il y a une augmentation du niveau de mer de 2 mètres, ça ne veut pas dire qu'on doit juste augmenter les digues avec 2 mètres, parce qu'en plus que cette augmentation du niveau de mer, les tempêtes vont être beaucoup plus fortes.
Quand vous dites qu'il faut s'adapter et que ça va être difficile, par exemple, de simplement surélever des digues, que ça ne va pas suffire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut s'adapter comment? Les populations qui habitent dans ces régions, elles doivent partir, elles doivent construire d'autres choses, qu'est-ce qu'elles doivent faire?
Partir est le scénario le plus extrême. On voit que des villes et les villages ont des plans d'adaptation eux-mêmes. On a la planification qui va être très importante. On doit adapter les maisons eux-mêmes. Tous les systèmes électriques qui sont maintenant seulement à 20 cm, qu'on les fait beaucoup plus haut.
Vous dites adaptation structurelle de la ville, du village, des entreprises, des particuliers. Ça veut dire beaucoup d'argent, non?
Oui, ça coûte beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais rien faire coûte beaucoup plus cher que faire des choses maintenant.
Ça va coûter plus cher de ne rien faire que de s'adapter dès aujourd'hui. Simon Rosé, c'est ce que vient de dire notre invité, Wouter Vanneville. Est-ce qu'en France, cette question de l'adaptation, comme on dit, est-ce que cette question elle est prise en compte par les autorités?
Oui, et depuis assez longtemps en fait. C'est assez rare pour être souligné. La France a commencé à y réfléchir dès 2006 avec la mise en place à l'époque d'une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Je vous passe l'historique, mais de la stratégie, on est aujourd'hui passé à la planification avec l'entrée en vigueur il y a 2 ans du second plan national d'adaptation au changement climatique, le deuxième PNA2C. Concrètement, ça veut dire qu'il existe aujourd'hui en France une sorte de boîte à outils pour aider les territoires les plus exposés à se prémunir des effets néfastes du dérèglement climatique. Boîte à outils de 3,5 milliards d'euros tout de même. Mais voilà, sur le papier, c'est bien joli, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué, comme toujours, car ce deuxième PNA2C, il n'est pas normatif. On peut voir ça comme un ensemble de recommandations et d'incitations, mais rien d'obligatoire. Et le problème, c'est que dans bien des esprits, les effets du changement climatique, eh bien, c'est encore un peu flou, et cette boîte à outils, on n'a pas le réflexe d'aller chercher dedans, de piocher dedans. Ce résumé, il est un peu caricatural, mais la majorité de l'argent dépensé, la majorité des programmes mis en place ont pour but d'atténuer le réchauffement, mais pas de s'y adapter, et c'est d'ailleurs un phénomène mondial. Alors évidemment, c'est essentiel de limiter au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, mais on sait déjà, la science le dit, qu'il y aura de graves conséquences. Les scénarios optimistes prévoient un réchauffement de 2 degrés en France en 2050, ça veut dire canicule presque tous les étés, tempêtes, sécheresses, inondations. Il faut s'y préparer, il y a certes des initiatives locales en ce sens, mais trop isolées. En clair, même si on y réfléchit, la France n'est pas prête aujourd'hui.
Merci Simon Rosé. Sophie Hélène fait des œuvres d'art avec des déchets ramassés sur la plage. Elle habite dans le nord de la France, à Cailleux-sur-Mer, à 2 pas de la baie de Somme. Et avec son association, l'artiste sensibilise le public à la protection de l'environnement. Une rencontre signée Lise Verbeek. Sophie Hélène vit à quelques kilomètres de la plage de Galée. Elle passe beaucoup de temps à l'arpenter, les yeux rivés au sol, sur la laisse de mer.
C'est le plus long chemin du monde, probablement, enfin en tout cas un des plus longs chemins du monde, et c'est vraiment le pointillé entre la terre et la mer, puisqu'il s'agit de ce que dépose la mer à marée haute juste avant de se retirer sur le littoral. Alors dans ce chemin, parallèle à la plage, on va pouvoir trouver des éléments naturels, des algues, des coquillages, des têtes d'animaux, et puis malheureusement maintenant on trouve aussi beaucoup de déchets.
Vous pouvez montrer votre pêche du jour?
Oui. C'est une toute petite pêche parce que je suis partie courir, donc je ne peux pas porter beaucoup. Là, ce que je vous montre là, c'est un film plastique, c'est un film agricole. Là, ici, vous avez des amorces de sacs. Vous voyez les sacs qu'on donne, les sacs à usage unique qu'on nous donne. Et là, ouais, j'en ai pas trouvé moins de 3, je crois. Je me suis aperçue que sur la plage de Cailleux-sur-Mer, en fait, je trouvais des objets qui arrivaient de la côte est des États-Unis, qu'on appelle donc des dérives transatlantiques, du matériel spécifique de pêche, notamment des trappes de casia homard ou des pots à pas qui sont utilisés vraiment que dans cette région-là et qui sont estampillés Texas ou Maine. Voilà. Et en fait, il y a des scientifiques qui étudient ces déchets, qui font des cartes d'identité. C'est grâce à leur travail en fait, que j'ai pu identifier des déchets.
Dans son atelier, des caisses entières sont remplies de ce qu'elle trouve sur les plages.
Voilà. On voit hein, le plastique très très vite, ça devient de la poudre. Ça, c'est du pneu. Ils s'en servent pour protéger les coques, en fait. Ils font des colliers avec ça, les pêcheurs. C'est magnifique, ça. Tout ça, c'est des galettes de mazout.
Et avec tout cela, la plasticienne crée des œuvres d'art. Par exemple, elle assemble des cartouches de fusils de chasseurs qu'elle trouve par centaines sur les plages. Elle les déplie, ce qui donne des carrés bleus, rouges ou encore noirs, des couleurs travaillées par leur séjour dans l'eau et leur usure, et elle les assemble entre eux pour donner un tableau.
Je cherche toujours à assembler des déchets qui ne soient pas lisibles dans un premier temps pour qu'on soit dans l'émotion, et seulement dans l'émotion.
Là, c'est quoi ?
Alors là, je vous laisse deviner.
Des gants.
Là, effectivement, c'est du matériel qui est utilisé par les pêcheurs sur les bateaux pour manipuler les filets. Ils ont des gants. Très vite, dès qu'ils sont un tout petit peu ouverts, ils s'en débarrassent, souvent malheureusement dans l'eau. Et on en retrouve sur le littoral. Et toutes les couleurs, là encore, c'est les couleurs telles que je les trouve. Et mon travail, ça va être plutôt de les assembler. Mon travail au départ était vraiment la couleur, la dégradation de la couleur, l'impact des éléments sur les matériaux. Et je m'aperçois que je suis obligée de dérouler un discours pour sensibiliser les gens à ces problématiques écologiques et à notre impact sur l'environnement.
C'est donc pour cela que Sophie Hélène a créé, il y a un an et demi, l'association SOS Laisse de Mer. Elle a mis en place une exposition itinérante et elle anime aussi des ateliers pour les écoliers. Des ateliers pour les sensibiliser aux déchets en utilisant l'art comme vecteur. Par exemple, elle les aide à faire des collages avec les larmes de sirène.
C'est un déchet qu'on trouve sur les plages du monde entier. Mais il est tellement petit que finalement, on ne le voit pas. Il s'agit du granulé plastique industriel. C'est le granulé qui alimente normalement tous nos sites de plasturgie, toutes les usines qui vont transformer le plastique en objet. Mais la matière première, en fait, qui fait tous nos objets en plastique et qui est perdue en amont de l'approvisionnement. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a 8000 containers recensés par an qui tombent à l'eau, et notamment, de temps en temps, des containers qui contiennent ce matériel. Aussi, par l'effet du cycle de l'eau, même le transport routier, en fait, impacte nos milieux.
Avec ses petites billes multicolores, l'artiste a notamment réalisé 365 dessins. Chacun représente des déchets retrouvés sur les plages, comme des bouteilles, des bidons ou encore des chaussures d'enfants. Stay woke, stay woke, stay woke, stay woke, stay woke. Stay woke, stay woke, stay woke, stay woke, stay woke, stay woke. C'est un mot nouveau, mais pas vraiment. C'est un mot nouveau qui n'en est pas un. Woke, c'est la mauvaise conjugaison du verbe irrégulier awake. En anglais, il est revenu sur le devant de la scène aux États-Unis, puis au Royaume-Uni en 2008. Mais en fait, il date du 18e voire du 19e siècle. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Juliette.
Woke, ça veut dire réveiller, Marie?
Vous avez raison, ça veut dire réveiller, mais aujourd'hui, il est utilisé surtout au figuratif pour dire éveillé, vigilant, conscient, en particulier des injustices sociales, du racisme, plus récemment de l'homophobie, de la misogynie avec le mouvement MeToo et Balance ton porc. C'est un mot qui a beaucoup évolué. Il est apparu au 19e siècle, peut-être même au 18e siècle, parmi les populations noires du sud des États-Unis. C'était effectivement à l'origine une erreur grammaticale, mais qui est entrée ensuite dans le langage courant que les linguistes appellent l'ébonics, c'est-à-dire l'anglais vernaculaire afro-américain. Ça n'est pas de l'argot, ni vraiment un dialecte. Certaines académies américaines le reconnaissent comme une langue à part entière. Donc woke fait partie de ces mots qui sont partis de l'anglais pour y revenir aujourd'hui, mais modifiés, comme le dit Tony Thorne, linguiste à l'université King's College de Londres.
Le mot woke est devenu très important comme slogan, surtout dans la locution stay woke, restez vigilant, restez attentif, utilisé par des militants, des progressifs, dont par exemple le mouvement de Black Lives Matter en 2009-2010. Dans une chanson très importante de 2008, la chanteuse Erika Badu a popularisé le mot, surtout la phrase encore « Stay woke ». I stay woke. What if there was no niggas on
C'est un extrait de Master Teacher d'Erika Badu, qui est une chanteuse afro-américaine. Mais si on parle du mot woke aujourd'hui avec vous, Marie, c'est parce que ce mot, il a traversé l'Atlantique.
Oui, selon les linguistes, il a été utilisé au début des années 2010 par les activistes, parfois par certains jeunes aussi, mais il n'est pas entré tout de suite dans le langage courant. Il a d'abord subi une nouvelle modification, et celle-ci négative, selon Tony Thorne.
Le mot woke ne peut plus être utilisé vraiment dans le sens original, ce qui signifiait conscient des problèmes sociaux, ou bien antiraciste, ou bien libéral. On ne peut plus l'utiliser comme ça, vraiment, en pratique, parce que la presse et les militants de droite utilisent le même mot « woke » comme un terme de mépris, pour mépriser les libéraux, pour mépriser les gens de gauche.
Et l'une des cibles est au Royaume-Uni, Meghan Markle. Woke est finalement arrivée dans le langage courant des Britanniques à partir de 2017-2018, en même temps que l'ex-actrice, ouvertement féministe, dénonçant les injustices et le racisme dans de nombreux discours avant d'épouser le prince Harry. Meghan Markle reste la duchesse, la princesse du woke, selon la presse. The Sun a même couronné le couple roi et reine du woke le mois dernier. Et pour les tabloïds, ce n'est pas un compliment. Le populaire présentateur de la matinale d'ITV, Good Morning Britain's Piers Morgan, est connu pour traiter beaucoup de ses invités de woke, un terme qu'il définit ici.
Quand j'entends le mot woke maintenant, je ne pense pas à quelqu'un qui se bat contre le racisme, mais à quelqu'un d'offensé, d'outragé, qui veut juste invalider les opinions des autres si elles ne correspondent pas à sa vision du monde.
Le quotidien The Guardian parle même de la popularité des célébrités anti-woke. Piers Morgan en fait partie, de même que Laurence Fox. L'acteur est ici l'un des invités de l'émission Question Time sur la BBC. Quelqu'un dans le public lui dit qu'il faut appeler un chat et que ce qu'a subi Meghan Markle, c'est du racisme. Lui n'est pas d'accord.
It's not racism. You can't. She has been torn to pieces.
It's not racism.
It absolutely is.
Laurence Fox trouve agaçantes ces accusations de racisme envers Meghan Markle et monte au créneau quand une femme du public lui rappelle qu'il est un homme blanc issu d'un milieu privilégié. Mais être réac comme Laurence Fox, ça permet aussi de faire parler de soi. Un fonds de commerce qui permet à l'acteur de faire le tour des médias et qu'il continue de faire prospérer. Il s'est même vanté d'avoir rompu avec sa petite amie parce qu'elle était trop woke.
Alors finalement, le mot woke n'est plus vraiment en vogue. Selon Tony Thorne, il est abandonné par une partie de la population.
Les jeunes ne peuvent plus utiliser ce mot sans un sens ironique. Donc, ils sont en train de l'abandonner. Donc, ça devient pour eux démodé au même moment où ça devient très à la mode pour les journalistes anglaises de droite. Beaucoup de mots, surtout des insultes, queer ou slut, qui sont vraiment des insultes, ils ont eu des batailles pour les récupérer et les utiliser contre les racistes, les antiféministes. Mais cette fois, je pense que c'est un de ces mots comme politically correct, comme snowflake même, qu'on ne peut plus utiliser parce que ces mots-là sont devenus trop toxiques.
D'autant plus qu'il est associé à des qualificatifs négatifs comme tyran, la tyrannie des bien-pensants, et que la presse s'en sert pour parler de l'injonction du politiquement correct.
Merci Marie, à bientôt. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site RFI.fr ou vous abonner au podcast d'Accent d'Europe sur votre plateforme préférée. À bientôt.